Si on regarde maintenant justement ce que les colons disaient, il y a des choses intéressantes à dire en regardant l'évolution de ces textes. L'évolution de ces textes, elle est assez troublante parce que les colons ne vont pas parler de musique et d'esclavage d'une façon désintéressée. En fait, ils vont en parler d'une part parce que la musique est à l'honneur en Europe chez les philosophes. Quand on parle de musique, on ne parle pas que de musique, on parle de civilisation, on parle d'anthropologie. Hein. Tous les philosophes du XVIIIe ont parlé de musique, même quand ils n'étaient pas musiciens, il n'y a pas que Rousseau, hein, tous parlent de musique, et tout le monde parle de musique finalement d'une façon ou d'une autre. Et de plus, les colons parlent de musique d'une façon insidieuse, pour dire que finalement c'est pas si mal l'esclavage, puisque les gens chantent et ils dansent. Hein. Voici ce que dit Thibaut de Champvallon. Ils ne font aucun ouvrage. Thibaut de Champvallon, c'est un colon martiniquais. Ils ne font aucun ouvrage qui exige quelque exercice, qu'ils ne le fassent en cadence et presque toujours en chantant. C'est un avantage dans la plupart des travaux. Le chant les anime et la mesure devient la règle générale. Le défaut de vêtements mettant à découvert tous leurs muscles, on voit qu'il n'est pas une partie de leur corps qui ne soit affectée par cette cadence et qui ne l'exprime. Devant un texte comme ça, l'historien de la littérature Léon-François Hoffmann a dit qu'il était question d'indécence. Quand on parle des travaux des chants de cette façon-là, presque toujours en chantant. Et ce n'est pas étonnant si un observateur de cette époque-là qui s'appelait Isère, Paul Erdmann Isère, qui sortait du nord de l'Europe, qui venait de Suède, si je me souviens bien, et qui voit les choses horribles, hein, il dit on déchiquette la peau des gens pour un moindre manquement, lui ne parle pas du tout de musique des esclaves. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il n'a pas à parler de ça. Il est vraiment choqué par ce qu'il voit et la musique passe réellement au second plan. Donc si on regarde ces textes de Colomb, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la façon de parler de la musique accompagne le mouvement des idées, c'est-à-dire comment, en définitive, il se situe toujours, d'une certaine façon, en parallèle par rapport au mouvement abolitionniste. Qui sont d'ailleurs pas abolitionnistes, franchement, on le sait. Par exemple, la Société des Amis des Noirs ne cherche pas à abolir l'esclavage, cherche à abolir la traite et à épuiser l'esclavage par l'abolition de la traite. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, le mouvement des idées, manifestement, se transmet au texte des colons qui parlent de musique. C'est ainsi que Thibaut de Champvallon, qui parle au milieu du siècle, hein, 1756, il parle de gens globalement. Et puis ensuite, on a des gens qui parlent d'individus. Et puis ensuite, on a carrément quelqu'un, Descourtils, qui se situe au moment de la Révolution, hein, il est là en 1802, Descourtils qui parle d'une seule personne, hein, il fait une chanson, il a vu un esclave chanter et il essaie de retranscrire la chanson. Donc voilà, on a l'impression que la focale se précise. Et en même temps, le discours finalement, il est toujours le même. C'est un discours qui justifie fondamentalement, qui est fondamentalement un discours qui justifie l'esclavage, et donc il n'est pas intéressant pour celui qui étudie la musique. Il y a une seule exception, c'est Chabanon. Chabanon est un théoricien de la musique qui est né à Saint-Domingue, qui est né dans le nord de Saint-Domingue, puis qui ensuite est parti à Paris, et c'est le seul à faire vraiment une comparaison entre toutes les musiques qu'il connaît. Il a un avantage sur les autres, d'ailleurs c'est le même avantage que Thibaut de Champvallon et Maud de Saint-Méry, il est créolophone. Donc il comprend ce qui se chante. Et comprenant ce qui se chante et faisant le rapport entre ce qui se chante et la musique, il peut en tirer des conséquences. Et il tire des conséquences extrêmement intéressantes de ce qu'il entend. Il a des formulations très très modernes. Hein. Chabanon, il dit que par exemple la musique n'est pas l'expression d'une chose, la musique c'est la chose même. Donc il ne s'agit pas de chercher derrière la musique, c'est ça. Et de façon assez stupéfiante, lui qui est fils de Colomb, lui qui est quelqu'un de Saint-Domingue, etc., il va dire, mais la musique des Arada, donc Arada c'est la ville que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, Alada au Bénin, la musique des Arada, elle est absolument comparable à la musique que l'on fait en Italie. Donc voilà un exemple de plus de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas encore cette ligne, hein, entre d'un côté la musique d'Afrique, de l'autre côté la musique européenne. Juste une parenthèse pour dire que sur le plan des sciences, sur le plan de l'étude des musiques, à ce moment-là encore, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de séparation entre toute l'étude des musiques. Par la suite, en France, mais aussi en Europe, on séparera. Il y aura d'un côté la musicologie, l'autre côté, il y aura l'ethnomusicologie. Alors qu'à cette époque-là, quelqu'un comme Chabanon, il écoute la musique des Aradas, il écoute la musique des Italiens, il fait la synthèse. Et par la suite, on fera la séparation, il y aura la musique de l'Europe, la musique savante, et puis il y aura la musique populaire, l'ethnomusicologie. Et cette division, elle a quelque chose d'européocentriste, c'est clair. Donc cette division se fera plus tard. Elle n'est pas encore faite au XVIIIe siècle. Les gens sont encore finalement dans un esprit encyclopédiste, malgré tout ce que l'on peut dire sur leur conception idéologique. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses à tirer des textes des colons, et quelquefois tout à fait incidemment. Voici un texte qui est... double texte plutôt, un texte qui est du 18e, donc au milieu du siècle, Lisette quittait la plaine, et vous avez un mot là qui est très intéressant, c'est le mot guimbal. Et ce mot guimbal, il n'est pas orthographié de la même façon, il est orthographié guimbel, un siècle plus tard, chez Paul Baudot, en Guadeloupe. Fondoc et Thérèse, c'est un opéra comique écrit sur... le devin du village de Rousseau. Or, ce guimbal-là, en petite note, c'est marqué guimbal, danse périmée. Moi, l'hypothèse que je ferai, ça demande à être cherché, c'est que ce guimbal, ce pas de guimbal, ça fait évidemment penser à pas de guimbal. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas trouver là l'indice que les colons ont remarqué une danse guimbal, d'accord, qui s'est appelée ensuite guimbal, pourquoi ? Qui a évolué un petit peu, le maillon, là, on l'a, avec la Guadeloupe, et qu'en définitive, dans un texte comme ça, par hasard, on finit par découvrir quelque chose qui, pourquoi pas, ne pourrait pas nous intéresser.